Radio Kapi.
À la une, paralysie du trafic cet avant-midi à Bukavu. Les motards ont observé une sorte de ville sans moto. C'est pour protester contre l'entrée en vigueur aujourd'hui de la mesure du gouvernement provincial interdisant la circulation des motos non identifiées. Leurs associations sollicitent un deuxième moratoire. Le système de convoi sécuritaire sur l'axe Beni-Kassindi devient un casse-tête pour les associations de conducteurs de véhicules. Les commerçants, par exemple, évoquent des perturbations dans leurs activités. L'armée qui a instauré ce système évoque des défis d'ordre technique et logistique en voie de trouver solution, rassure le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Et puis, la province de Maniema vient de produire dans le secteur des BIA, territoire de Pangui, les cartes participatives et plans simples d'aménagement du territoire, conformément au guide des zonages participatifs. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Réponse avec notre invité Kasongo Shindano, chef de division provinciale d'aménagement du territoire dans le Maniema. Madame, messieurs, bonjour. Ce journal part du Sud Kivu. Les motos n'ont pas circulé ce jeudi avant midi au centre-ville de Bukavu. Situation consécutive à l'entrée en vigueur ce jeudi 18 août des mesures du gouvernement provincial interdisant la circulation des motos non identifiées, ce qui n'est pas du goût des motards qui ont observé une sorte de ville sans moto. Leurs associations sollicitent un deuxième moratoire au gouverneur du Sud Kivu pour se faire identifier massivement. Jean Kassami nous fait le point.
La paralysie était totale, la population a eu de la peine à se mouvoir dans la ville durant toute la matinée, les chauffeurs des taxis moto ont barricadé les grandes artères empêchant même la circulation d'autres engins roulants. Les transporteurs qui ont osé braver cette situation ont été violemment bousculés par des motards à l'esprit surchauffé. La police a déployé une caravane motorisée faisant le tour de la ville pour dissuader les motards à ne pas circuler. Une rencontre est prévue entre les autorités provinciales et les représentants des associations de motards cet après-midi. Au moins 2500 motards se sont déjà fait identifier selon les coordonnateurs de la synergie des associations de motocyclistes du site Kivu Bostiruza.
Nous avons commencé de s'identifier et commencé de porter les gilets. On a déjà identifié plus de 2500 motards dans la ville de Bukavu. Alors, une communauté du maire de la ville de Bukavu qui dit on interdit tous les motards qui passent sur le boulevard dans la ville de Bukavu.
Ce sont les taxis motos qui couvrent une majeure partie de la ville en matière de transport en commun. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Lancement hier à Kinshasa des travaux de l'atelier de formation des journalistes et blogueurs ouvert par le chef de l'unité communication au Fonds des Nations Unies pour la population. Cet atelier de deux jours vise à outiller ces professionnels des médias avec des notions essentielles sur la santé maternelle pour qu'ils s'engagent à faire sien les défis de vaincre les décès maternels. On écoute Siaka Traoré, chef de l'unité communication à l'UNFPA. Il est au micro de Florence Kiza.
Chers journalistes, dans le pays, en effet, au moins 4 femmes meurent chaque heure de suite de complications d'une grossesse ou de l'accouchement. Ainsi, pour intensifier la sensibilisation sur la santé maternelle, l'UNFPA a lancé le prix Média Henriette Eke. En effet, nul doute que dans les pays démocratiques, la presse constitue le quatrième pouvoir. Mais n'est-elle pas également une force au service du développement? À UNFPA, nous sommes convaincus que la presse constitue une force incontournable pour réussir les actions de développement durable qui tiennent compte des questions de population. Cependant, il faut reconnaître que pour permettre à cette force de jouer son rôle, il est nécessaire que les journalistes qui, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, animent les médias, maîtrise les sujets qu'il traite. Et cette session de formation, en nous permettant d'échanger sur la santé maternelle, vous offre l'opportunité de mieux vous outiller sur cette thématique.
Retrouvons à présent Paul-Richard Malengela qui nous parle de fortes inondations qui menacent actuellement des personnes, les habitants des Zongor dans la province du Sud Ubangi.
La partie la plus inondée de la ville jusque-là, c'est le quartier Gbalamole, dans la commune de Nzulu, à 35 km de Zongo. Les eaux de l'Ubangi, en crue à la suite des fortes pluies, ont envahi plusieurs villages. Le premier bilan dressé par le chef de quartier fait état de plusieurs dégâts matériels dont parle le maire de Zongo, Michel Siazo.
Moi, j'ai vu plus de 1365
5 personnes sinistrées dans les 200 quelque chose des ménages touchés et plus ou moins 300 habitations qui ont été écoulées. Et la plupart des familles sont élues domicile au niveau des écoles. Bientôt, il y aura la rentrée scolaire qui est faite et puis ils sont en train d'utiliser, mais pas comme des bois, des choses. Donc il y a tout ça. Donc également, un cimetière qui est sous les joues et ça commence déjà à donner du modèle de la bombe. Et ce qui n'est pas au monde pour les gens qui habitent à côté de ce cimetière-là.
La situation reste alarmante, a indiqué l'autorité urbaine. Elle a fait ce mercredi l'objet d'une grande réunion qu'elle a tenue avec les services publics et les humanitaires. Les participants ont décidé l'envoi d'une mission d'évaluation plus approfondie de deux jours afin de donner des solutions plus efficaces. En attendant, le maire Siazo exhorte ses administrés à travers la ville à quitter le quartier marécageux, lesquels sont souvent victimes des inondations pendant les grandes pluies de novembre et décembre de chaque année. Bon Dakar, Paul Chamanigui, la radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Beni, une incertitude règne au sein des associations des conducteurs de véhicules qui empruntent la route Beni-Kassindi. C'est à la suite de l'irrégularité du système de convoi sécuritaire. Et bien que le problème logistique soit à la base de cette situation, l'armée pour sa part rassure. Explication avec Tati Mapoukou.
Les conducteurs des véhicules ainsi que les responsables des agences de transport en commun empruntant l'axe Beni-Kassindi indiquent que le système de convoi est devenu un casse-tête pour le bon déroulement de leurs activités. Pareil chez les commerçants pour qui la perturbation du système de convoi cause des retards dans l'expédition de leurs marchandises en provenance de Kassindi. L'armée qui a instauré les convois sécuritaires sur cet axe routier évoque certains défis d'ordre technique et logistique qui sont en voie de trouver solution. Le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord.
Les systèmes d'escorte continuent malgré quelques difficultés dues au carburant et aux moyens logistiques. Donc nous faisons le mieux possible pour sécuriser nos compatriotes, surtout les chauffeurs qui ont payé quand même leur vie et les autres ont perdu leurs marchandises sur ce tronçon Beni-Kassindi.
Cette perturbation est aussi à la base de plusieurs incidents sécuritaires sur cet axe routier, dont sont victimes les conducteurs qui finissent par tomber dans les embuscades des ennemis. L'armée demande à ces derniers d'être patients car les efforts sont en train d'être fournis afin d'améliorer le bon fonctionnement du système de convois sécuritaires sur l'axe Beni-Kassindi.
En Ituri, 57 morts et 98 maisons incendiées en l'espace de 15 jours. Bilan des attaques des groupes armés Codeco et Zaïre dressés par les services de sécurité et les activistes des droits de l'homme en Ituri et plus précisément dans le territoire de Djougou. Parmi les victimes, des militaires FARDC, plusieurs voix s'élèvent pour condamner la recrudescence de l'insécurité dans cette zone après une accalmie de plus d'un mois. L'armée appelle les auteurs de ces violences à cesser au risque d'y être contraints. Retour sur ces attaques avec Martial Kiza.
La plus grande attaque a été enregistrée le 5 août dernier où 22 personnes ont été tuées par des éléments du groupe d'autodéfense Zaïre à Damas. Deux jours plus tard, ce sont des assaillants de la Codeco qui ont attaqué les villages d'Mbidjo, Akwe, Soukissa, Tchoudia et Djingou, faisant 7 morts et 3 blessés graves. Le lendemain, soit le 9 août, environ 20 personnes sont mortes à Kalandaou, dans la région de Birunda, après des combats entre les assaillants de la Codeco et c'est de la milice Zaïre. Les mardis derniers, c'est au moins 17 civils qui sont morts dans une attaque de la Codeco au site minier de Walla. Les services de sécurité et les activistes des droits humains relèvent par ailleurs que pendant ces deux semaines, 38 personnes ont été enlevées par la Codeco. 12 seront relâchées plus tard. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri parle de mort de trop. L'armée appelle les miliciens de la Codeco à respecter leur accord d'engagement unilatéral de cessation des hostilités. Autrement, ils y seront contraints par les forces loyalistes. Bounia, Martial Kizabiabunku, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Un calme précaire règne ce jeudi sur la ligne de front entre les FARDC et le M23 dans le Rutshuru. Aucun coup de feu n'a été entendu toute la nuit dans la zone de Rwanguba, Rangira, Muimbira et Tanda, des entités qui ont été lundi et mardi le théâtre des affrontements violents entre les deux forces. C'est dans le groupement des Jomba. Selon des sources de la société civile locale, hier, en milieu de journée, des tirs ont été entendus pendant environ 10 minutes dans le village de Muimbira et dont on ignore pour le moment les raisons. Ces sources déplore les conséquences humanitaires de cette instabilité sécuritaire au regard du nombre croissant des déplacés internes que cela occasionne dans la région. Les policiers, les éléments des FARDC et ceux de la garde républicaine qui font le gardiennage dans les carrières minières artisanales du Haut-Katanga sont sommés de quitter ces sites. C'est l'une des résolutions prises hier au cours du Conseil provincial de sécurité, réunion qui a aussi passé au peigne fin toute la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Notons que ce Conseil provincial de sécurité a été présidé par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en séjour à Lubumbashi. Le compte-rendu de Jean Gandou.
Parmi les faits qui ont été aussi évoqués, il y a le meurtre d'un chauffeur de taxi par un soldat qui a tiré sur lui à bout portant mardi dernier au centre-ville de Lubumbashi. À en croire le ministre provincial de l'Intérieur, cet homme en uniforme est déjà déféré devant la justice. Par ailleurs, il a été demandé à tous les policiers, militaires et autres éléments de la garde républicaine qui font le gardiennage dans les carrières minières artisanales dans le Haut-Katanga de quitter ces sites miniers, et cela en ayant 48 heures. Toujours sur le plan de la sécurité, les commandants des FRDC et de la police nationale ainsi que le pouvoir judiciaire sont invités d'interpeller tous les militaires et policiers en situation irrégulière. Ce conseil de sécurité a aussi porté des griefs au pouvoir judiciaire qui met souvent en liberté les criminels qui sont mis à sa disposition. En outre, tous les services non éligibles qui opèrent aux postes frontières et de péage sont aussi sommés d'évacuer. Et à la population, il a été demandé de collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tous les hors-la-loi qui sèment la terreur dans la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Kasaï Central, évasion des détenus de la prison centrale de Luisa. Les faits se sont déroulés dans la soirée de mardi, rapporte des sources locales. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire de Luisa qui parle de 58 prisonniers, dont 24 condamnés. Thomas Mutuila explique qu'ils ont profité de la distraction de la police qui assure la garde pour ravir l'arme et trouer le mur à l'entrée et s'enfuir. L'arme a été récupérée et les recherches sont en cours pour retrouver les fugitifs, indique Thomas Mutuila. Il est joint au téléphone par François Kadima.
Les gens-là qui étaient condamnés, qui ont beaucoup perduré en prison là-bas, ils se sont familiarisés avec tous les policiers des gardes qui vont là-bas. Et en plus de cela, la prison de Luisa, c'est à l'enceinte même où il y a une cellule, les policiers des gardes restent à l'entrée. Donc je ne sais pas quelle stratégie qui a été montée, mais qui était en train de les étudier. Au moment où les policiers voulaient manger, alors les criminels là sont tombés sur eux et on a ligoté même les policiers de garde, on a ravi l'arme, ils ont fait tout pour alerter à leurs camarades, on a détruit entre la porte et le mur et tous les prisonniers ont évadé. La journée d'hier là, on a filé, on a alerté dans des secteurs, puisque quand le tribunal, même le parquet fait son travail, ils ont les adresses fixes, les identités des concernés. Alors nous avons été alertés, on a attrapé un prisonnier qui avait l'arme. L'arme est déjà récupérée entre les nommés.
Le caucus des députés nationaux du Tanganyika demande au ministre de l'Intérieur du gouvernement central de trouver une solution pour rouvrir l'Assemblée provinciale. Pour le rapporteur de cette structure, Daniel Asselo a pris des décisions contradictoires qui ont entretenu la confusion, dit-il, ce qui a abouti à la fermeture de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Le député national Emmanuel Mukundi souligne que la réouverture de cette institution va permettre le contrôle de l'exécutif provincial. Il le dit au micro de Paulin Munanga.
La confusion est venue des écrits du ministre, parce que le ministre, acceptant que le bureau nouvellement élu puisse investir la gouverneure et son gouvernement, c'est-à-dire le ministre a reconnu ce bureau-là. Et ce bureau a fonctionné pendant tout ce temps avec le gouvernement actuel. Mais le chevet dans la soupe est tombé, c'est lorsque le même ministre demande à la gouverneure de recevoir l'ancien bureau et de les remettre à leur poste et les sécuriser. C'est cette phrase qui a créé la confusion. Pour l'ancien bureau, le vice-premier ministre nous remet encore nos tabliers de membres du bureau. Pour l'actuel bureau, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on vous demande de rentrer, c'est rentrer comme député. Lorsque l'ancienne présidente est venue, et avec son bureau, ils sont partis déloger des forces les nouveaux bureaux. Et cela a créé une confrontation entre les militants et entre les députés. Le souhait de députés du caucus du Tanganyika, c'est que, à l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre, que notre assemblée provinciale soit réouverte.
Actualité internationale. Nous sommes au Tchad, en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno Timan Erdimi et rentré jeudi à N'Djamena à 2 jours d'un dialogue national entre l'opposition civile, l'armée et la junte au pouvoir. Le chef de l'Union des forces de la résistance doit participer à partir de samedi à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs aux civils. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que le président turc Recep Erdogan doivent rencontrer ce jeudi à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky. Au cours de cette rencontre, seront discutées les exportations des céréales ukrainiennes, mais aussi la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijja, qui est aux mains de l'armée russe et visée par des bombardements depuis plusieurs jours.
L'invité.
Il s'agit de Kasongo Shindano Léon, chef de division provinciale d'aménagement du territoire. La province du Maniema vient de produire dans le secteur des Beya, territoire de Pangui, les cartes participatives et plans simples d'aménagement du territoire conformément au guide des zonages participatifs. Ces documents considérés premiers dans la province et en RDC ont été réalisés grâce au financement de l'initiative Plus pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, via le Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et du gouvernement congolais. Kasongo Shindano nous explique l'importance de ce document. Il est avec Florence Kiza.
Monsieur Kasongo Shindano Léon, bonjour.
Bonjour.
Chef de division provinciale d'aménagement du territoire, aujourd'hui la province d'Imanema vient de produire les plans simples d'aménagement du territoire. C'est quoi un plan simple d'aménagement du territoire et quelle est son importance?
Le plan simple d'aménagement du territoire est un outil de gestion spatiale qui permet à la communauté locale à faire un inventaire des ressources en élaborant la carte participative et à prévoir les utilisations des espaces des communautés. Son importance est celle d'arrêter l'exploitation des forêts d'une manière désordonnée dans les programmes de la réforme de l'aménagement du territoire pour contribuer au processus RED+, en engageant le gouvernement pour le village, groupement qui n'ont pas de PESAT, qui signifie plan simple d'aménagement du territoire.
Y a-t-il des conséquences au cas où un terroir ne dispose pas d'un plan simple d'aménagement du territoire?
Exactement, il y a des conséquences parce que la communauté ou la population voit exploiter la forêt d'une manière abusive, car elle s'est fait d'une manière là désordonnée. Et cela constitue une destruction des forêts, étant donné que l'agriculture itinérante surbrûlée est là pour la destruction de la forêt de l'espace de notre province.
Comment faire pour élaborer ces plans et qu'est-ce qu'il faut?
L'élaboration d'un plan simple d'aménagement du territoire nécessite plusieurs paramètres, tels que, d'une manière technique, il faut qu'il y ait des personnels bien qualifiés, des cartographes formés, pour bien déceler ou dénicher les points ciblants pour élaborer le plan simple. Et aussi, ça demande aussi les moyens financiers. D'autre part, il y a aussi les ressources humaines. Ces ressources humaines, ce sont des agents qui nécessitent une grande information ou formation en cartographie.
Une fois qu'une communauté a ce plan simple d'aménagement du territoire, quelle est la part de responsabilité de la communauté et même des autorités?
La communauté, elle va se fixer à bien classer les activités économiques dans tel espace, dans leur terroir voulu. Telle activité sera faite dans tel endroit. Tandis que pour les autorités, donc la partie étatique, les autorités de l'aménagement du territoire doivent veiller pour éviter ce qu'on appelle la malutilisation des forêts, pour éviter aussi la déforestation, la mauvaise utilisation des ressources que la communauté peut retrouver dans leur espace bien déterminé par leur PESAT.
Ces plans simples d'aménagement du territoire que vous produisez aujourd'hui est le 40e au Maniema et même en RDC.
Ce plan simple d'aménagement du territoire que nous produisons aujourd'hui au Maniema, c'est le premier plan simple d'aménagement du territoire depuis l'existence de l'aménagement du territoire à la province. C'est le premier plan que nous retrouvons ici chez nous, au Maniema. Et ce plan est considéré au niveau national comme l'échelon ou l'échantillon par rapport aux autres provinces pour que leurs espaces soient bien conservés.
Le premier, mais pourquoi le choix du secteur de Béa, territoire de Pangui?
Bon, le choix du secteur de Béa, dans le territoire de Pangi au Maniema a été en tout cas favorable à cause d'abord, il y a d'abord le moyen de la route, surtout là où les acteurs ou les formateurs peuvent se rendre dans les lieux sans difficulté. Et au niveau de Béa, il y a la possibilité que les agents quittent Kindu pour arriver vers Méa et pour arriver aussi vers Djoua. Il y a la possibilité. Dans notre province, les infrastructures sont tellement impraticables.
Et ça va se limiter seulement ici dans le secteur de Béa?
Non, non, non. Le secteur de Béa, j'avais dit que c'est l'échantillon. Maintenant, ça doit être continu.
Vous évoquez à tout moment les moyens, mais qui a financé ce processus?
Le processus, aujourd'hui, était financé par le Fonared qui avait signé des accords pour l'exécution des activités de RED+. C'est la GIZ qui est comme agence d'exécution de notre PIRED Maniema.
Amissi Kasongo Shindano Léon, je vous remercie.
Merci.
Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotati Vueta. Supervision de Martin Seboujangwe à la mise en onde, Mimi Kindu et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.